un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Ils ont donc gagné chaque couple environ 2 millions d'euros. Ils sont riches, brusquement, brutalement, par hasard, sans y avoir bien réfléchi, ni l'avoir vraiment cherché, sans avoir sué sang et eau, ou sans être né comme ça. Bref, sans avoir appris avec le biberon comment gérer son argent, comment faire en sorte qu'il ne se voie pas trop, comment le dépenser sans l'entamer, et surtout, comment le garder. C'est un conte de fées de la Française des Jeux, comme il y en a chaque semaine, sauf que voilà, être riche, cela ne s'improvise pas. C'est tout un métier, surtout si on souhaite le rester. Ils sont donc bien désemparés, le dire ou pas, qu'ils en ont tant et tout d'un coup. Et si oui, à qui et combien donner à ses proches, devenus soudain de potentiels débiteurs et susceptibles de me les piquer, mes sous, ma cassette, mon argent. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, les gagnants du loto ou la vie compliquée des gens riches qui ont bien entendu exigé l'anonymat et la plus grande discrétion sur leur lieu de résidence. On ne sait jamais d'ici à ce que les auditeurs des pieds sur terre s'intéressent un peu trop à leur cassette. Reportage Jérémy Torgeman.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je joue au loto depuis l'origine. Tous les vendredis, tous les samedis et tout. Et à chaque fois, je disais tous les mercredis et tous les samedis à ma femme, bon, ce soir c'est le bon jour. Et puis juste après le loto, je lui disais, on peut aller travailler demain matin. Parce que bien évidemment, rien du tout. Puis ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, de toute façon, si un jour on gagne au loto, c'est qu'on sera fait l'un pour l'autre. Tirage du loto, je recopie les petits numéros qui étaient sortis et je vérifie ma grille. Donc les numéros qui sont sortis, c'est 4, 6, 15, 21, 42, 49. Ça, je connais par cœur. Et puis je regarde et puis je fais 4, 6, 15, 21. Je dis, oh, bah, j'ai les 4 premiers, c'est une bonne journée, j'ai gagné 10 euros. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait 42, 49. Et puis après, j'ai appelé ma femme. Alors on a été branché Internet. Et puis, à un moment donné, la Française des Jeux, elle a quand même sorti les rapports. Là, j'ai dit, non, là, je regarde pas, je refuse. C'est même pas la peine. Donc, je suis sorti, puis ma femme a regardé. Et elle m'a fait, on a gagné. Et on a gagné combien? Elle me fait 1 800 000 et quelques mille francs. Et je lui dis, on n'est pas en francs. Les francs, c'est fini. On est en euros.
J'y croyais pas au début et donc j'avais un peu de mal à réaliser effectivement que c'était les bons 6 numéros et donc je le dis le soir à ma femme de se préparer et de s'asseoir et
Puis alors après il y a le ticket qui nous brûle les doigts hein, parce qu'alors là on a peur de le perdre, ce petit ticket qui vaut quand même plusieurs millions d'euros. On avait un petit coffre-fort qu'on avait avant et on le mettait là parce que, alors, on n'a jamais eu peur de voleurs et de feu. Et là, on a vraiment eu peur qu'il nous arrive quoi que ce soit pendant ces quelques jours.
Vous avez gagné combien exactement?
2 200 000, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Donc là, tout nous passe par la tête. On dort pas bien du tout. Il y a une sorte de féerie quand même. C'est magique. On n'y croit pas. Moi, je crois que j'y ai pas cru. Tant que j'ai pas été à la banque et on a du mal à y croire.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai gagné au loto ! Ah, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Mais j'aimerais bien.
Dans la semaine qui a suivi, en attendant la remise du chèque. Je me disais que c'était pas vrai. Puis ensuite j'ai eu le chèque. Enfin, nous avons eu le chèque. Mais ça a bien duré encore 6-7 mois. Où je me suis dit, c'est pas vrai. Je suis en train de rêver. C'est pas possible. J'y croyais pas. Parce que c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est pas simplement 1 800 000 euros qu'on a touché. C'est beaucoup plus. C'est 1 800 000 de capital. C'est les intérêts sur le capital. C'est la possibilité de faire ce qu'on veut. Ma femme avait fait un calcul, pour elle, ça représentait 110 ans de salaire. Ma femme touchait un salaire net d'environ 10 000 francs par mois. Et moi, j'étais directeur financier dans une situation un peu simpliste, puisque j'étais ce qu'on appelle vulgairement au placard. Un poste où j'avais comme travail d'arriver à l'heure, d'aller manger à l'heure et de repartir à l'heure. Donc je peux vous dire que lorsque le chèque a été mis en banque, la pression est vite retombée. Parce que j'en avais rien à foutre, là. D'un seul coup, c'est moi qui ai mis la pression à l'employeur pour qu'il me donne ma lettre de licenciement et qu'il me vire. Et il n'a pas compris. Mais il a compris que d'un seul coup, sa pression psychologique qu'il utilisait, ben, il n'y avait plus de prise. Mais il ne savait pas pourquoi.
J'irai direct à mon travail. J'irai à mon travail comme ça. Et puis je ferai rien. Ouais, rien du tout. J'attendrai que le chef des services se pointe. Et quand il arriverait, je ferai. Alors la fouine. On surveille. Ah, ça serait bon, ça.
C'est une chance qu'on a d'être pratiquement à la pré-retraite à 40 ans. Parce que normalement, ça nous serait quelque chose comme ça nous arriverait quoi, à 65 ans, voire plus. Donc il faut prendre ce qui nous est arrivé, le tourner en bonheur. En fait, c'est vrai que c'est une nouvelle vie qui commence. On s'aperçoit peut-être pas tout de suite, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est petit à petit qu'on réalise. Ça doit dépendre des personnes. Il y en a qui réalisent plus ou moins vite. Moi, je sais qu'il m'a fallu plusieurs mois pour accepter la situation. Il y a eu, je crois que j'ai eu un rejet de cet argent que j'avais pas demandé, enfin qui me tombe du ciel, mais qui me gênait parce que on travaille pour gagner de l'argent. Là, on a de l'argent et cette sensibilité qu'on on le mérite ou pas cet argent. On l'a pas volé, on l'a gagné. Enfin, on l'a gagné, c'est parchu par la chance. Mais moi, je joue sans croire, comme beaucoup de gens, je pense, sans croire que ça va nous arriver à nous. Donc après, on culpabilise avec cet argent. Je le mettais de côté, cet argent. Je voulais pas l'accepter tout de suite. Donc moi, ça me servait de petit coussin pour me donner des ailes. Mais j'avais peur que ça m'empêche de continuer un parcours que j'avais commencé, quoi.
C'est pas toujours rigolo d'avoir de l'argent, car on se crée aussitôt des tas de tourments.
Il nous a fallu 4 mois pour le dire à une partie de la famille. Et à ce jour, toute notre famille ne le sait pas. Il n'y en a qu'une partie qui le sait. De mon côté, dans ma famille propre, il y a certains problèmes. Et je sais que si je le dis, j'aurai plus de problèmes que si je le dis pas. Eux, dans ma famille, c'est pognon, pognon, pognon. Dieu dollar, Dieu euro, et ainsi de suite. Je supporte pas. Donc si je leur dis ça, alors là, je vais devenir le plus beau, le plus intelligent, le plus travailleur, la personne qui a le plus d'humour, vraiment. Mais avec une arrière-pensée évidente. Du côté de la famille de ma femme, il y a eu des soucis pour certains membres de leur famille. Comme on avait décidé de faire des dons, on a été obligé de le dire. Il vaut mieux être discret et être là quand les gens ont des problèmes que d'arriver en disant « Bon, attendez, voilà, j'ai gagné, j'ai plein d'argent, je peux faire ce que je veux. » Et puis, à la limite, on va devenir quoi ? Invivable ? Imbuvable ? Si on le dit pas, on reste ce qu'on est. On est aimé pour ce qu'on nous sommes. Si on le dit, on va créer plus de jalousie qu'autre chose. On ne veut pas.
La première réaction, c'est quand on gagne, c'est de dire, on a cette somme-là, on va en donner à tout le monde. Franchement. Le premier jet, c'est « Ouais, on va pouvoir faire plaisir à tout le monde ». Ça, c'est la première chose. Sur Internet, qu'on était, c'était ça. Mais après, la famille s'arrête où ? Il y a les parents, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les petits-enfants. Enfin, ça s'arrête où, la famille ? Quand on divise par le nombre de personnes, ben voilà, Mais ben, il reste plus grand-chose. Donc, c'est... Et après, oui, c'est toutes ces questions-là, on les a posées, parce que vraiment, c'était, écoute, le premier geste, c'est on va tout diviser. On ne fait pas de jaloux. Mais si, il n'y aurait eu que des jaloux. Parce qu'en fait, pour donner à l'un plus qu'à l'autre, et pourquoi ? On est plus nombreux dans une famille que dans l'autre, donc non, c'est pas simple. Ou alors, faut vraiment dire, je garde plus rien pour moi, mais bon, ça c'est, on est quand même pas, on est un peu égoïste aussi, hein. En fait, on aurait pu donner à chacun 1 million ou 2 millions de francs, c'était normal et c'était pas assez. Ça sera jamais été assez bien.
On n'en mange plus, on ne dort plus sur ses oreilles. On ne vit plus, on ne pense plus qu'à son oseille. Il vous faut tenir un rang, c'est embêtant. Car on est quelqu'un maintenant de très important. On n'est plus libre de soi, on est toujours aux abois. Avoir de l'argent entre nous, ça n'est pas rigolo du tout, du tout. Il y a d'abord le proprio qui vous en prend un morceau, et dame ça vous rend morose. Il y a ensuite le percepteur qui vous cueille ça comme une fleur et ne vous laisse pas grand chose. Ce qui vous reste de votre fortune, vous le portez chez un banquier. Il encaisse vos thunes sans vous en rendre une, car le lendemain il lève le pied. C'est pas toujours rigolo d'avoir de l'argent, car on se crée aussitôt des tas de tourments. On n'en mange plus, on ne dort plus sur ses oreilles. On ne vit plus, on ne pense plus qu'à son oseille. Il vous faut tenir un rang, c'est embêtant, car on est quelqu'un maintenant très important. On n'est plus libre de soi, on est toujours aux abois. Avoir de l'argent entre nous, ça n'est pas rigolo du tout, du tout.
Nous sommes des riches incognito, et on veut le rester. Au niveau du travail, on a dit qu'on avait créé notre propre société. Donc, devenant indépendant, le problème ne se pose plus. Quand on voit nos amis, on dit « Attends, tu m'excuses, je suis en week-end, je ne vais quand même pas parler boulot, hein ?» Non, ça, on arrive à très facilement à juste évacuer le problème et à parler d'autre chose. Non. Au lieu d'habiter en banlieue parisienne, on a décidé d'aller en province. Donc, on va acheter bien évidemment un pavillon qui va être un peu plus grand, avec un terrain qui va être un peu plus grand, bien évidemment. Alors, première remarque, on leur fait remarquer que le prix d'un pavillon un peu plus grand, c'est grosso modo le prix d'un appartement à Paris, parce qu'on ne va pas acheter 600 mètres de pavillon. On va être dans la norme raisonnable, un peu plus que raisonnable. Et puis, pourquoi est-ce qu'on part en province ? Parce que pour la famille, c'est mieux, et puis parce que mon activité se développe dans la France entière. Donc que je sois à Paris ou en province, les déplacements, ça revient au même.
Mais ça vous ennuie pas de mentir ?
Non. Non, parce que je n'y trouve que des avantages. Le mot mensonge est vrai, mais c'est pas un mensonge, c'est un pieux mensonge. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un mensonge pour faire le bien. C'est pas un mensonge pour faire le mal. Mais je vais dire, à la limite, je mens pas. Je déforme la vérité. Je vais jouer sur les mots. Ma femme et moi, on est très croyants. On est sûrs que Dieu nous a fait une grâce divine. Je ne pense pas que Dieu, dans vos cas présents, va me dire « c'est pas bien, tu mens ».
Mais vous leur faites pas assez confiance pour leur dire.
Mais je connais la nature humaine, c'est tout. Attendez, c'est monstrueux ce qui vous arrive. Vous, il y a 99% ou 99,99% de la population française qui, tous les matins, est obligée de se lever à 6 heures, de prendre le métro à 7 heures, pour aller travailler durement, pour gagner quoi ? 1000 euros par mois ? Mais pas possible, faut respecter les gens.
Alors, vivre dans le mensonge, c'est... moi qui suis droite, qui suis, je sais pas, j'ai, oui, parce que même à ses propres parents, enfin, moi qui dis toujours la vérité, c'est pas que on ment par omission, on ne dit pas, mais c'est pas beau. Il y a ça aussi, toutes les petites joies, tout, même les voyages, des choses qu'on se, eh ben, on le dit pas, on les garde pour nous, parce que si on va en vacances, si on fait des choses un peu, ben non, on va, ben, ah bon, ils peuvent se payer ça, donc on va, donc on ne peut plus partager nos joies avec notre famille. On vit un peu, on vit pour nous, et puis on fait comme si, on leur dit pas tout, quoi. Et on vit avec ça. C'est pas une croix, hein, c'est un plaisir, mais c'est des joies qu'on voudrait partager. Et ben non, on peut pas, parce que sinon on va étaler, donc non, on veut pas étaler, nous. Donc non, on préfère rien dire.
France Culture, les pieds sur terre.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice.
Le premier achat qu'on a fait, ça a été un collier que ma femme souhaitait, qui était un collier de perles. Mais ma femme voulait un collier en toc, en demi-toc, qui a coûté 2000 francs. Le deuxième achat, ça a été un ordinateur portable. Enfin, j'ai pris le bas de gamme, hein, 8000 francs, pas euros. Hein. On s'est payé des vacances 3 semaines en Thaïlande. Donc là, on a fait un effort, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un vol avec escale qui coûtait pas cher, on s'est pris un vol direct. Mais en classe économique. Et puis ça a été terminé. Là, on vient de faire un achat. Là, on a gagné en avril 2003. Et là, en février 2005, on vient de faire un achat. On a changé de voiture. Alors là, on a pris une belle voiture. On a pris un grand Scénic. 150 000 francs. Avec l'achat de la voiture là, dont je viens de vous parler, on commence tout juste à prendre possession de cet argent. Mais ça, vous ne le faites pas en 24 heures. C'est toute votre vie qui est chamboulée. Tout le monde dit, si j'ai ça, bah tiens, je vais m'acheter ceci, je vais me payer cela. Non, ce n'est pas vrai, vous ne vous le payez pas. Non. Déjà, il y a beaucoup d'envies qui disparaissent avec le simple fait de savoir qu'on peut se le payer. Quand vous n'avez pas d'argent, vous avez envie d'acheter des choses. Dans notre cas, à nous, on peut se le payer. Donc après, ça devient, les achats vont devenir peut-être un peu plus réfléchis. Quand je pensais, moi, plus jeune, vouloir une Mercedes, il était clair que ça allait être chaud, mais vraiment très dur pour l'avoir. On peut l'avoir. Je peux faire le chèque. Donc à partir de ce moment-là, toute la notion... Je veux parce que ça fait chic, ça fait bien, c'est un fantasme ou tout ça, a disparu. D'un autre côté, il y a aussi le fait que les gens à notre époque, ils veulent paraître. Alors là, malheureusement, là, de ce côté-là, c'est pas notre style. Comme une majorité des gagnants. Le paraître, non.
Et avant, ça l'était un peu plus ?
Proportionnellement, oui. Ah, proportionnellement, oui. La première chose, quand j'étais tout jeune, quand j'avais 20, 25 ans, je me suis battu pour essayer d'avoir une carte American Express. Parce qu'à l'époque, c'était très chic d'avoir une American Express. Mais j'avais pas les moyens. Bon, j'ai réussi à l'avoir, je sais même plus comment, ne me le demandez pas, je m'en rappelle pas. Mais quand on allait en boîte de nuit draguer la nana, ça faisait bien de sortir son American Express. Paraître. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Mais aujourd'hui, je peux.
Tiffany's.
Tout à coup, on se pose des questions, la bourse, l'inflation, toutes ces choses-là qu'avant, c'était pas vraiment un problème.
Tout tourne autour de l'argent. Oui, et plus on en a, plus on en veut. On n'en a jamais assez. C'est infernal, en fait, c'est infernal comme spirale. Et je me rends compte, parce que moi, quand j'avais des clients qui avaient l'ISF, et je me disais, qu'est-ce qu'ils se posent comme problème, ces gens-là? Moi, je serais à l'ISF, je me poserais pas de problème. Mais qu'est-ce... Bon, bah mince, je m'en suis jamais posé autant de problèmes d'argent que quand j'en ai. Et on se rend compte, comme je dis, je me suis jamais sentie aussi pauvre. Parce que les besoins augmentent. Parce que c'est les rêves ou les fantasmes vont augmenter. Ça peut devenir plus délirant.
On s'est mis le frein pour mais pour rester au même niveau et pas dépenser le capital. En sachant que... Donc moi, j'ai arrêté de travailler.
Moi, avec l'argent, je fais exactement les courses avec les mêmes boutiques que je faisais avant. J'ai le même rythme d'achat que je faisais avant. Les enfants, ils sont gâtés, mais je leur donne pas 10 fois plus ou beaucoup plus que ce qu'ils avaient avant. Non, je veux leur apprendre la notion de la valeur de l'argent. Ils ont vu leur papa et leur maman tous les matins aller au travail, leur demander des résultats scolaires ou des ambitions pour plus tard, parce que il faut qu'on leur... Il y a un modèle aussi qu'il faut assurer.
Je crois qu'ils ont quand même compris que c'est pas parce qu'ils me voient à la maison que je fasse rien et qu'eux, ils pourraient faire pareil. Je ne peux pas accepter le fait que s'ils disent « moi j'arrête mes études » ou « je ne vais pas chercher de travail ou... », là je ne pourrais pas accepter ça. Donc effectivement, ça pose quand même quelques problèmes. Il faut donner un exemple, un modèle, on est quand même un modèle. Et, comme moi j'ai toujours vu travailler mon père, dur, ma mère également, donc effectivement là... Donc, je veux donner quand même une image positive à mes enfants.
Mon mari qui a fait le choix d'arrêter de travailler, je me rends compte qu'en fait, il y a cette insatisfaction journalière de vouloir faire quelque chose d'intéressant de sa journée et de pas forcément de... Il y a tellement de choses à faire, mais de pas arriver à faire ce qu'on veut et puis plus savoir après ce qu'on veut faire vraiment.
Et ça, c'est depuis des siècles que ça existe comme ça. C'est tout, ça a été inculqué déjà par l'Église et par toute la société. Oui, ça se dit partout, je veux dire. Et inconsciemment, on a toujours ce sentiment. On se sent fautif. Ouais. Oui. Quand on ne travaille pas, on se sent fautif. Et on ne peut rien y faire. C'est ça un peu le problème.
Non,
il faut vivre, oui, il faut apprendre à vivre sans travailler.
Premier numéro de ce deuxième tirage, le 11. Le 39. Le numéro 1.
Est-ce que vous jouez encore au loto aujourd'hui?
Bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas?
Et pourquoi?
Parce que c'est stupide.
Le 36.
Parce que... Avant de gagner, j'étais sûr que je ne gagnerais jamais au loto. Maintenant, je me dis, ça m'est arrivé une fois, pourquoi ça ne m'arriverait pas deux? Et puis, j'y crois pas, faut arrêter déjà une fois, c'est bon. Moi, j'aime bien avoir ma petite grille, vérifier mes numéros, puis voilà, c'est mes 3 minutes de bonheur le mercredi et mes 3 minutes de bonheur le samedi.
On veut toujours, ça c'est humain, je crois, on veut toujours plus ce qu'on a.
Donc c'est pour ça qu'on continue à jouer au loto. Hein.
Vous continuez.
Ouais. On regarde
quand même pas les résultats. Donc. faut continuer. Bah ben oui, on reste client, hein. Pas de raison. Hein.
C'est comme un lascar qui dépense. On vit dans la même France, mais dis-moi à quoi tu penses. Je sais, je suis un barbare, appelle-moi Attila le 1. Excusez-moi, messieurs, si je vois ma vie comme celle d'un chien. Si j'étais chien.
C'était Les Pieds sur Terre et les Gagnants du Loto, un reportage de Jérémy Torchman, réalisé par Marie-Laure Ciboulet avec un coup de main d'Émilie Valla. Et c'est une deuxième diffusion d'une émission que nous avions déjà diffusée il y a des années. Depuis, sachez que la Française des Jeux a mis en place une cellule de soutien quasi psychologique avec des leçons et des enseignements divers pour les gagnants du loto pour arriver à gérer leur argent, à payer le moins d'impôts possible, etc. Nous y avons consacré un épisode qui sera disponible à l'écoute sur la page des Pieds sur Terre. Merci à Françoise Mautier, Isabelle Vigneux de la Française des Jeux, ainsi qu'aux deux couples anonymes de gagnants, Jeanne Copet, c'est la Tapro, et Justine Calais, c'est notre stagiaire.
Je ne connais plus la chaîne du compte à zéro. Ouais, je suis riche.
Elle est riche.
Digi, 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 oh. Riche, 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 ah, je suis riche. Et toi aussi, gynéco.
Bah ouais, oui.
Tu seras riche aussi grâce à tes mots.